ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय,
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय,
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम
ओम
नमो
नमो
भगवते
भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
Alors voilà, on est au module 6. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
Hare Krishna. La maîtrise des pulsions de la langue. Quant aux pulsions de la langue, nous savons tous par expérience que nous aspirons à goûter des mets savoureux. En règle générale, nous ne devrions pas laisser la langue se satisfaire à sa fantaisie, mais bien la discipliner en lui donnant de la nourriture sanctifiée, prasad. Ainsi, un bhakta ne mange que lorsque Krishna le pourvoit en prasad. Voilà comment maîtriser les pulsions de la langue. On devrait en outre honorer le prasad à des heures régulières et ne pas fréquenter les restaurants ou les confiseries seulement pour satisfaire les caprices de la langue et de l'estomac. Si nous adhérons à ce principe et n'acceptons que de la nourriture consacrée, les pulsions de la langue et de l'estomac s'en trouveront maîtrisées. 6.1. Quant aux pulsions de la langue, nous savons tous par expérience que nous aspirons à goûter des mets savoureux. Comme on dit au Québec, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. De tous les sens, disait Bhaktivinoda Thakur, la langue est celui qui est le plus vorace et le plus difficile à maîtriser. Par contre, si on maîtrise la langue, tous les autres sens peuvent facilement être maîtrisés. 6.2. Yes.
Om Gyana Timirandasya Gadanjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Srila Prabhupada Ki Jai. Alors, ici on dit tous les autres sens peuvent facilement être maîtrisés, à condition de maîtriser la langue en premier lieu. Alors, le programme pour maîtriser la langue est un programme qui a fait ses preuves et qui ne donne pas de place pour un écart. Dans ce programme-là de maîtrise de la langue, il n'y a pas d'écart. Il peut y avoir des écarts, mais à ce moment-là, on est dans Maya. On est sous l'influence de l'énergie matérielle. Alors, la maîtrise, ça veut dire qu'il y a quelque chose à suivre, et puis après, il n'y a pas d'écart possible. Alors ça doit être bien compris aussi. Par un dévot. En général, ce n'est pas vraiment difficile, le programme pour maîtriser la langue pour les dévots de Krishna. Il suffit juste de s'en tenir à la consigne de manger juste du prasad. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui, question.
Oui.
Est-ce que la langue et le mental ne sont pas complices ensemble?
Ben, si la langue est pas maîtrisée, c'est sûr la langue va envoyer des, disons, ses commandes, comme une commande là, au mental. Puis le mental, ben lui, s'il n'y a pas d'intelligence, lui non plus, pour le maîtriser, ben à ce moment-là, la langue va tirer bien fort sur sa demande, et puis le mental, lui, va dire oui parce qu'il est habitué à dire oui à n'importe quoi, là. Puis l'intelligence, quand le mental est plus fort que l'intelligence, ben c'est comme ça que ça va se passer. La langue va finir par avoir gain de cause.
Mais
Alors, pas.
l'envie, elle se développe où? Elle, dans la langue ou le mental?
Veux-tu répéter ça, s'il vous plaît?
L'envie, parce que la langue, c'est des envies, c'est l'envie de ça. Les envies se créent où? dans le mental ou c'est les sens de désir palpitable?
Mais c'est les deux.
Contrôle.
Une combinaison des deux. Tu sais, c'est, je sais pas moi, quelqu'un passe devant. Mettons, quelqu'un avait l'habitude de passer tous les jours devant la pâtisserie, puis il avait l'habitude d'aller s'acheter un millefeuille à tous les jours, à telle heure, telle heure. Puis là, d'un coup, il devient dévot de Krishna. Il chante avec Krishna, mais c'est sûr qu'il va perdre il est dû pour perdre cette habitude-là. Mais il se peut qu'il y ait des souvenirs ou même des tentations si sa conscience de Krishna n'est pas assez ferme. Est-ce que ça répond à la question?
Oui, oui, je comprends.
Bon.
Mais Prabhu, juste une question complémentaire à ça. Oui. Si le dévot, justement, il est devenu dévot et il pâtisse un gâteau en respectant bien sûr les ingrédients végétariens, etc., avec des ingrédients que Krishna apprécie, et il offre ce gâteau qui ressemble peut-être un petit peu à un millefeuille, mais qui n'est pas un millefeuille acheté dans une pâtisserie. Là, on est correct.
Ou on est correct à condition de l'offrir à Krishna.
Bien sûr, si on l'offre, voilà, on le prépare pour l'offrir à Krishna, et après on en mange les reliefs.
Oui, mais donc dans le Upadeshamrita que nous étudions, Prabhupada explique aussi si en cuisinant on pense « Ah, oh, mais ça va être bon », on pense à jouir de la préparation, alors Prabhupada explique que ça aussi c'est tombé sous les dictées de la langue.
Mais ça, c'est Dieu, pas bon.
Non, ça, on l'avait bien expliqué aussi déjà. Quand on prépare du prachat, on sent pas, on respire pas, on dit pas que ça sent bon. On est vraiment, on prépare quelque chose pour l'offrir à Krishna. Donc, on est vraiment concentré sur la préparation du repas pour Krishna, en fait.
Ouais. Ce que tu dis, Virginie, ça, c'est la surface. On peut être correct en surface. Mais la vraie raison, c'est l'amour pour Krishna. Par amour pour Krishna,
oui.
On ne veut pas goûter avant, on ne veut pas sentir avant. Pourquoi? Parce que ça nous tient à cœur de faire plaisir à Krishna. Alors, si c'est, on cuisine, puis là on se dit tout le long, faut pas que je sente, faut pas que je goûte, faut pas ci, faut pas ça. Aïe, aïe.
Non, non, mais voilà, c'est naturel, en fait, justement. C'est parce que, justement, on le prépare pour Krishna, parce qu'on aime Krishna, et donc on prépare quelque chose de bon pour lui. On va pas préparer quelque chose qui est pas bon, sinon ça n'a pas de sens. Mais justement, il faut être, voilà, comme tu viens de le préciser, c'est l'amour de Krishna qui nous fait préparer le prachat.
Exactement. Mais il y a une histoire d'un Goswami, je ne sais pas qui, mais ce gars, comme on dit ici, là, on vient de le lire, là. Le dévot ne mange du prachad que, ça, on vient de lire ça, là, que lorsque Krishna le pourvoit en prachad. Alors, il y a une histoire d'un dévot et surtout des Goswamis qui mangent presque rien. Ils sont très avancés spirituellement. Ils mangent pas grand-chose. Puis, une fois, il y avait un Goswami, un dévot très, très avancé. Puis, tout ce qu'il avait à manger, c'est des chapatis bien secs. Puis, une fois, Krishna est venu le voir, puis m'a dit, « Pourquoi tu ne me l'as pas offert? » En tout cas, quelque chose, c'est offrir à Krishna en personne. Alors, le dévot, lui, il disait, je peux pas offrir ça à Krishna, c'est sec, sec, sec. Il ne voulait pas. Mais Krishna, malin qu'il est, expert qu'il est, il venait en prendre un petit morceau et Krishna était très satisfait. Pourquoi? Parce que c'est l'amour du dévot qui est impliqué. Krishna aime prendre ce que les dévots préparent pour lui avec amour et dévotion. Alors, l'idée, c'est que si quelqu'un est capable de préparer des mets délicieux, mais il manque l'ingrédient principal qui est l'amour de Krishna. Alors, comme Prabhupada donne des exemples d'une personne très riche en Inde, là, une personne très riche qui engage des brahmanas pour faire l'adoration des déités dans sa maison, mais lui, il fait jamais. Alors, ça vaut pas grand-chose. Et si les brahmanas sont pas plus brahmanas qu'il faut, dans le sens que la dévotion, c'est plus un job qu'autre chose, ben, ça vaut pas cher, la tonne, comme on dit en québécois, là. Alors, ce que Krishna veut, c'est l'amour, la dévotion du dévot. C'est ça que Krishna veut et apprécie. Et c'est réciproque. Le dévot avec Krishna, c'est lui aussi, c'est de faire les choses avec amour et dévotion. Et même si ça peut être difficile de suivre les règles, le dévot veut le faire pareil. Alors, on va continuer la lecture aujourd'hui, puis on aura des commentaires à cet effet-là. Virginie, veux-tu continuer, s'il vous plaît?
6.2. En règle générale, nous ne devrions pas laisser la langue se satisfaire à sa fantaisie, mais bien la discipliner en lui donnant de la nourriture sanctifiée, prachat. Il faut toujours avoir un programme prévisible si l'on veut maîtriser quoi que ce soit. Telle est la formule du succès. Ce n'est pas nouveau. Et c'est peine perdue de trouver toute autre formule. Prenez l'armée par exemple. L'efficacité d'un régiment repose sur la discipline. Le moindre affaissement de discipline peut être fatal. Apparaît alors le risque de déroute en plein combat. À titre personnel, c'est la même chose. Il faut de la discipline. Si l'on comprend le programme nécessaire pour y arriver, on peut suffisamment faire preuve d'intelligence pour parvenir à maîtriser le mental et l'essence. Le programme est, entre autres, constitué de toutes les instructions liées au présent mantra 1 de l'Upadeshamrita. C'est clair, net et précis. Il est facile de tout trouver ce qu'il faut connaître au même endroit. Pratiquement parlant, le mantra 1 est à retenir par cœur tellement il est important. 6.3. Ainsi, un bhakta ne mange que lorsque Krishna le pourvoit en prasad. Un bhakta vivant dans un temple est pourvu en prasad tous les jours de sa vie, tant et aussi longtemps qu'il vit au temple. Mais pour la plupart des dévots, un jour viendra où ils ne vivront pas plus dans un temple, souvent pour raison de vie familiale ou de circonstances appelant à l'éloignement. Pour un dévot qui connaît par expérience la satisfaction spirituelle de tout faire en fonction de Krishna, le programme, même en dehors du temple, est très simple. C'est tout ou rien d'une certaine façon de parler. Ce sera donc, comme il se doit, en ce qui concerne la nourriture, une diète à saveur toute transcendantale. Il voudra s'assurer de continuer à offrir au Seigneur toute sa nourriture et n'accepter ainsi comme nourriture que le prasad, les reliefs de la nourriture offerte à Krishna. C'est très clair et indigne de tout compromis. Si il en est ainsi, la vie est toujours de bon augure pour un dévot qui profite de se purifier de toute réaction pécheresse quand il mange. 6.4. Voilà comment maîtriser les pulsions de la langue. Encore une fois, un dévot de temple, il n'a pas vraiment le choix. Sa vie est fonction de l'horaire des offrandes faites aux murtis dans le temple. C'est très simple comme mode de vie. C'est très satisfaisant de partager le prasad avec les autres bhaktas. Manger, danser, festoyer, que peut-on trouver de mieux? On fait d'une pierre deux coups. L'austérité soi-disant de maîtriser la langue et le plaisir transcendantal de savourer le prasad. Quelle combinaison gagnante!
Question,
6.5.
commentaire? Alors, Prabhupada, il nous met en garde aussi dans l'Upadeshamrita, à savoir que même si c'est du prasad, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on peut en manger plus qu'on a besoin. comme on dit en français, s'empiffrer. Ça, c'est pas, même si c'est du prasad, c'est pas une raison pour s'empiffrer. Il faut manger à notre faim, selon nos besoins. Et puis, c'est tout est beau comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Virginie?
6.5. On devrait en outre honorer le prashad à des heures régulières et ne pas fréquenter les restaurants ou les confiseries seulement pour satisfaire les caprices de la langue et de l'estomac. Les heures régulières ne sont pas un problème pour un dévot de temple. Pour tout dévot qui vit à l'extérieur d'un temple, ce sera une autre paire de manches. Il faudra faire preuve de jugement à toute fin pratique en termes de temps, circonstances et entourage. La tentation sera grande de se laisser tenter par les facilités de la vie. Nourriture toute faite d'avance pour consommation immédiate, restaurant, confiserie. Un bacta voudra toujours offrir sa nourriture avant de la consommer, tout en sachant très bien, par expérience, que rien ne vaut tout prachat offert au murti. Il saura toujours que c'est le processus d'offrande de la nourriture au murti qui fait toute la différence. La différence se trouve dans la formule qui permet que le miracle du prashad puisse se produire. C'est-à-dire que Krishna pose son regard sur la dite offrande, sa façon à lui d'accepter et la manger. De plus, pour la seule et unique raison, l'amour et la dévotion, le soin avec lequel la nourriture lui a été offerte. Le dévot peut sentir la nature authentique du prashad quand ce dernier a été offert au Seigneur selon les règles de l'art. Le principe d'offrir sa nourriture à Dieu, la personne suprême Krishna, se trouve dans la Bhagavad Gita 9.26. Patram, pushpam, phalam toyam, yome bhaktya, pratyachati, tadaham bhakti upardham, ashnami, prayata, mana. Patram, une feuille, pushpam, une fleur, phalam, un fruit, toyam, de l'eau, ya, quiconque, mais, à moi, bhaktia, avec dévotion, prayachati, offre, tat, ceci, aham, je, bhakti, upardham, offert avec dévotion, ashnami, accepte, prayata, atmana, de celui qui a une conscience pure. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Teneur et portée. Il est essentiel pour l'homme intelligent d'adopter la conscience de Krishna et de se dédier au service d'amour transcendantal du Seigneur afin de connaître le bonheur éternel dans le monde, dans le royaume de la félicité. Le processus qui permet d'obtenir ce merveilleux résultat est simple d'application. Même le plus indigent peut l'adopter et de surcroît, il ne requiert aucune qualification matérielle particulière. La seule qualification requise est d'être un pur dévot du Seigneur. Peu importe notre situation ou ce que nous sommes, cette méthode est si facile qu'il suffit d'offrir une feuille, un fruit ou un peu d'eau avec amour, avec un amour sincère, pour que le Seigneur l'accueille avec joie. Ainsi, nul n'est inapte à adopter la conscience de Krishna, car elle est simple et universelle. Qui serait assez sot pour refuser d'être aussi facilement conscient de Krishna et d'atteindre la perfection d'une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité? Krishna ne désire qu'un service d'amour et rien d'autre. Il accepte même une petite fleur de la part de son pur dévot. Il refuse par contre tout ce qui provient de non-dévots, bien qu'il soit satisfait en lui-même et qu'il n'ait besoin de rien. Il accepte l'offrande de son dévot dans un échange d'amour et d'affection. Le fait de développer la conscience de Krishna est la plus haute perfection de l'existence. Le mot bhakti est mentionné deux fois dans ce verset. Cette répétition sert à montrer que seul le service de dévotion permet d'approcher Krishna. Rien, hormis la bhakti, ne peut forcer le Seigneur suprême à accepter ce qu'on lui offre. Ni la position brahmanique, ni l'érudition, ni la richesse ou la connaissance philosophique ne peuvent l'y obliger. La bhakti est sans motivation. C'est un processus éternel, un acte direct au service de l'absolu. Après avoir montré qu'il est le Seigneur originel, le bénéficiaire suprême et le véritable objet de tous les sacrifices, Krishna révèle quel type d'oblation il désire pouvoir offrir. Si nous désirons pratiquer le service de dévotion pour nous purifier et atteindre le but de l'existence, le service d'amour absolu du Seigneur, il convient de savoir en premier lieu ce qu'il attend de nous. Celui qui aime Krishna lui offrira tout ce qu'il désire, et non, bien sûr, ce qui lui déplaît ou ce qu'il n'est pas demandé. Aussi, ne doit-on pas lui offrir de viande, de poisson ou d'œuf. S'il avait voulu ces choses, il n'aurait pas manqué de les mentionner. Au contraire, le Seigneur indique clairement dans ce verset les offrandes qu'il désire qu'on lui fasse et qu'il acceptera. Une feuille, un fruit, une fleur, de l'eau. Nous pouvons en conclure qu'il n'accepte ni viande, ni poisson, ni œuf, légumes, céréales, fruits, lait et eau constituent une nourriture appropriée pour l'être humain et sont recommandés par Krishna lui-même. Aucun autre aliment ne doit donc lui être offert puisqu'il le refusera. D'ailleurs, si l'on ne respecte pas ses désirs, comment parler d'amour et de dévotion pour Dieu? Krishna expliquait au verset 13 du troisième chapitre que seuls les reliefs d'aliments offerts au préalable en sacrifice sont purs et propres à nourrir ceux qui cherchent à progresser et à s'arracher de l'engluement matériel. Ceux qui n'offrent pas leur nourriture en sacrifice, ajoutait-il dans ce verset, ne mangent que du péché. En d'autres mots, chaque bouchée qu'ils avalent les enfonce plus profondément dans les intrications de la nature matérielle. Par contre, préparer des plats végétariens simples et savoureux, les offrir devant l'image ou la murti de Krishna, en se prosternant et en lui priant d'accepter notre humble offrande, voilà qui nous permet de progresser d'un pas sûr dans la vie, de purifier notre corps, de produire des tissus cérébraux plus fins et donc de clarifier nos pensées. Ce qui importe le plus, c'est que l'offrande soit faite avec un sentiment d'amour. Krishna n'a nul besoin de nourriture puisqu'il possède déjà tout, mais il accepte l'offrande de celui qui désire lui plaire ainsi. L'élément essentiel, tant dans la préparation que dans la présentation ou l'offrande de tel mets, est l'amour pour Krishna. Le philosophe impersonnaliste, parce qu'il désire maintenir que l'absolu est dépourvu de sens, ne peut comprendre ce verset de la Bhagavad Gita. Pour lui, il s'agit soit d'une métaphore, soit d'une preuve de la matérialité de Krishna. Mais en vérité, Krishna, la personne suprême, possède des sens spirituels. Il est même dit que chacun de ces sens peut remplir les fonctions de tous les autres. C'est ce qu'implique l'adjectif absolu attribué à Krishna. S'il n'avait pas de sens, comment pourrait-on dire de lui qu'il possède toutes les perfections? Dans le septième chapitre, Krishna expliquait comment il féconde la nature matérielle en l'ensemençant d'entités vivantes de son seul regard. Et ici, nous pouvons comprendre que rien qu'en entendant les mots d'amour de son dévot en train de lui présenter une offrande, il mange véritablement, goûte les aliments qu'on place devant lui. Ce point important est à souligner. Parce que Krishna est absolu. Son sens de l'ouïe peut remplir les fonctions de son sens du goût. Pour lui, entendre, manger, goûter sont équivalents. Seul le dévot qui, sans vaine interprétation, accepte Krishna tel qu'il se décrit lui-même, peut comprendre que la vérité absolue puisse prendre de la nourriture sans s'en délecter, et puisse prendre de la nourriture et s'en délecter. Le mot à mot suivant est très significatif. Ashnani. Accepte. Prayata Atmanaha, de celui qui a une conscience pure. La conscience pure n'est plus ni moins que l'amour de Dieu qui nourrit entièrement la conscience du dévot. C'est à cette unique condition que Krishna accepte la nourriture qui lui est offerte. Un autre point fort pertinent. Est-ce qu'un dévot néophyte dont la conscience n'est de toute évidence pas absolument pur, est en mesure d'offrir sa nourriture avec la pureté de conscience voulue? La réponse est non, et ce, en toute reconnaissance des faits et humilité qui va de soi. Alors, comment faire? Voici la réponse. Un dévot n'offre pas la nourriture en son nom, mais l'offre au nom du maître spirituel dont il suit l'instruction de faire ainsi. Et de qui Krishna se fera un plaisir d'accepter la nourriture. Krishna ne peut être approché directement. Tout aspirant dévot doit passer par la succession disciplique autorisée. Tel est le système reconnu. Tel est le système reconnu et établi dans tout le temple de Krishna. Tel est le programme qui se doit d'être suivi. Serviteur du serviteur, du pur dévot de Krishna.
Jai,
Hare
merci
Krishna.
beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Une question, si le lait et le miel n'ont pas été mentionnés, c'est quand même une chose que on offre quand même, veux dire, c'est.
Bien sûr. L'idée, c'est que la nourriture qui est offrable à Krishna, c'est une nourriture qui est dite dans la vertu. Alors, Prabhupada explique ça quelque part dans la Bhagavad Gita. Ceci comprend les fruits, les légumes, les produits laitiers. Et quoi d'autre encore? Et
Les
les
céréales.
grains et les céréales,
Les
justement.
céréales, voilà.
Alors, ça c'est. Et Prabhupada dit, à partir de ces ingrédients-là, on peut faire des milliers de préparations. Alors, ça, c'est les aliments qu'on. C'est le choix qu'on a parmi les aliments. Et Krishna est très gentil parce que c'est ça qu'il donne comme nourriture, pour les êtres humains. Alors, comme Prabhupada explique aussi dans Ishopanishad, ça c'est la nourriture, grains, céréales, produits laitiers, fruits et légumes, ça c'est la nourriture pour les êtres humains. Prabhupada donne un exemple. La nourriture pour les vaches, c'est l'herbe. Il n'y a pas d'autre chose, c'est l'herbe. Pour les êtres humains, c'est la nourriture que nous venons de mentionner. Et dans le Srimad Bhagavatam, Prabhupada explique dans une teneur portée, cependant, les êtres humains ont deux canines dans leur dentition qui leur permet, s'ils veulent à tout prix manger de la viande, ben, les canines sont là. Mais la vraie nourriture pour les êtres humains, c'est la nourriture dans la vertu. Alors, comme dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué, il y a trois genres de nourriture. Celle dans la vertu, celle dans la passion et celle dans l'ignorance. Dans l'ignorance, c'est les nourritures qui sont en décomposition, qui ne sont pas fraîches, comme par exemple la viande, c'est un aliment qui est en décomposition. Alors c'est pour ça que ça prend beaucoup de choses pour améliorer. Pour faire en sorte que la viande soit mangeable, là, ils ont toutes sortes de façons de faire, les chefs de ce monde. Et puis les gens pensent, oh, ça c'est délicieux, c'est vraiment bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tout ça, c'est dans les modes de la nature matérielle. Et puis il y a des conséquences pour qu'est-ce qu'on mange qui n'est pas offert à Krishna au préalable. S'il y a des questions ou des commentaires? Alors, j'ai un mauvais exemple à vous donner, parce que tantôt, j'ai fait un commentaire et j'avais l'idée en tête, mais je ne l'ai pas dite. Mais parce qu'au tout début, on parle de la maîtrise de la langue. Et pour donner un exemple, et ça, c'est vraiment pas un bon exemple. Ça me fait pas particulièrement plaisir de le donner, mais je trouve que c'est un exemple qui est vraiment, qui est vraiment, comment on peut dire, que ça part de pertinence. Alors, comme par exemple, lorsque les animaux sont amenés à l'abattoir. C'est pour ça que je dis que c'est un mauvais exemple, mais quand même, c'est juste comme ça. Ils sont maîtrisés. Comment ils sont maîtrisés? Parce que ils les mettent dans le camion, ceux du camion ou dans la charrette, whatever it is. Et ensuite, ils sont amenés à passer d'un enclos à un autre enclos. Puis finalement, il y a le dernier enclos qui est la place qu'ils devraient jamais avoir être venus. Et puis, alors, ils sont maîtrisés de A à Z comme ça. Alors, pour la langue, il y a des jalons, il y a des barrières des deux côtés, à savoir que il y a un programme, manger la nourriture qui est seulement offerte à Krishna, et puis aussi, il y a un autre critère qui est, si on peut dire en anglais, le timing, le temps. Alors, comme on a lu aujourd'hui, on ne permet pas à la langue de faire tous ses caprices. Alors, on donnait l'exemple tantôt, quelqu'un passe devant une pâtisserie, puis il veut rentrer, puis il veut aller acheter. Ça, c'est bon avant d'être dévot. Mais une fois qu'on est devenu dévot, le temps est un facteur. À savoir qu'on mange pas n'importe quand, on mange quand, justement, spécialement pour un dévot de temple, il mange quand le prasad est servi. D'abord, il doit y avoir l'offrande aux déités, et ensuite, le prasad va être servi, distribué aux dévots. C'est ça la vie d'un dévot dans un temple. Alors, ça prend peut-être un certain temps à s'habituer, mais c'est pas très long à s'habituer. Mais moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand je suis devenu dévot, je trouvais ça difficile au début, justement, de s'adapter à cet horaire de prasad, les heures du prasad. Je trouvais ça un peu difficile. Mais une fois que tu as pris le pli, comme on dit, ça, tu voudrais pas revenir en arrière. Disons, une vie où tu manges n'importe quand, n'importe quoi. Tu ne veux plus ce genre de vie-là. Parce que tu as goûté un autre genre de vie. La vie spirituelle. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre pour aider à maîtriser la langue que Prabhupada parle dans ses livres, mais qu'on n'a pas lu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur pour aider à maîtriser la langue? La langue et l'estomac.
Oh, juste la langue ou les deux ensemble?
Les deux.
L'autre. La langue, j'avais dit de parler de Krishna, de chanter son nom. Ça c'est une discipline aussi.
Oui, ça c'est correct. On met ça de côté, là, on parle juste de manger. Quel facteur? En fait, c'est pas manger. C'est le contraire de manger. Mais je vais pas donner la réponse parce que je vais vous faire travailler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à part qui peut aider à arriver à maîtriser la langue et les demandes de l'estomac?
Jeûner?
Exactement. Mais jeûner sur quelle base?
Ben, sur les Ukadashis.
C'est ça. Sur la base des Écritures.
Voilà. C'est ça, des Védas. Parce qu'il y a quand c'est des commémorations de naissance ou de disparition, on jeûne jusqu'à midi, ce genre de choses, en fait.
Exactement. Et ça contribue justement à maîtriser la langue et les demandes de l'estomac. Alors, il y a un jeûne en particulier qui est plus difficile que les autres. C'est le jour de Janmashtami. Là, c'est jeûne total jusqu'à minuit le soir, le moment d'apparition de Krishna. Évidemment, quand il y a un jeûne dans les temples, on peut boire de l'eau. C'est pas interdit. Ça brise pas le jeûne. Prabhupada a expliqué ça. Alors, les jeûnes, ça aide justement à réaliser par soi-même que oui, il y a moyen de résister et de passer au-dessus des demandes de la langue et des demandes de l'estomac. Alors, c'est un autre facteur qui est favorable. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Il y a le jeûne, c'est très bon pour la santé. J'ai entendu dire que si quelqu'un jeûne comme 24 heures plus, là, le corps se répare ou des maladies s'en vont avec le jeûne. Très, très puissant comme action, le jeûne.
Oui. Et aussi, le jeûne est bon pour réparer les excès. Un prophète dans une classe, il dit, si par exemple, on a trop mangé, on a trouvé que c'était tellement bon qu'on a trop mangé. Alors, Prabhupada explique qu'on va être obligé de jeûner pendant 3 jours. Ça va prendre 3 jours pour, là, Prabhupada dit jeûner, là, ça va prendre 3 jours pour se replacer. Parce que justement, on a vraiment exagéré. Ça, c'est ce qu'on appelle la gourmandise, là. Une grosse gourmandise. Ça prend un certain temps à s'ajuster. Et ça, c'est les lois de la nature qui veulent ça comme ça. Alors, tu peux pas t'empiffrer, t'empiffrer, t'empiffrer et il n'y aura pas de conséquences. Il va y avoir des conséquences. Et justement, à ce moment-là, il faut cesser de manger pour un certain temps. Et surtout, par exemple, si quelqu'un a tellement mangé qu'il a une indigestion, oh ben là, ça, c'est la cerise sur le sundae. Il faut vraiment qu'il fasse attention et manger moins ou presque pas pour s'en remettre. Et ça, c'est les lois de la nature. Donc, s'il y a d'autres questions ou commentaires? OK. Alors, on va continuer. Ananda, s'il vous plaît, 6.6.
Oui, bien sûr. 6.6. Si nous adhérons à ce principe et n'acceptons que de la nourriture consacrée, les pulsions de la langue et de l'estomac s'en trouveront maîtrisées. Si l'on adhère à ce principe de n'accepter pour toute nourriture que du prasad, les pulsions de la langue s'en trouveront maîtrisées. Gratitude oblige envers Guru et Krishna qu'il en soit ainsi. C'est simplement parfait. Il n'y a aucune autre façon de faire en ce qui concerne maîtriser la langue. Le processus est parfait et complet. Prashad et Krishna Katha. Écoutez ce qui a attrait à Krishna et parlez de Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Que Krishna sur toute la ligne.
Jai, merci Jai. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Hare Krishna.
Ah, c'est vraiment pas difficile, la conscience de Krishna. Il faut juste accepter le programme que le maître spirituel nous donne et suivre. C'est tout. Vraiment pas difficile à faire. Et puis après, ben, disons, tout est permis dans le sens que un dévot peut retourner au monde spirituel, puis ça va continuer encore. Nourriture offerte à Krishna, etc., etc. C'est vraiment sublime. La conscience de Krishna, c'est imbattable. Il n'y a rien pour matcher la conscience de Krishna. Quand on y pense bien, là, il n'y a rien de supérieur. C'est comme Krishna dit, nulle vérité ne m'est supérieure. Alors, tout ce qui a trait à la conscience de Krishna, il n'y a rien d'égal à ça non plus.
Oui, je te rejoins complètement.
Oui. Alors, qu'est-ce qui est un petit peu, comment on peut dire, décevant pour un dévot quand il regarde les gens qui ont un mode de vie où ils n'offrent pas leur nourriture à Krishna. Et puis toutes les choses qu'ils font qui n'ont pas de rapport direct avec la conscience de Krishna. Alors, un dévot, il voit ça comme vraiment décevant. Il se demande, pas il se demande, mais il pense que les gens sont vraiment infortunés. Et un dévot aussi peut réaliser que des personnes qui côtoient des dévots peuvent penser que, ah, les dévots exagèrent. C'est, comme on dit en anglais, c'est too much ce que les dévots font dans les moindres détails. Mais le dévot, lui, pense que c'est too much aussi la vie matérielle des matérialistes et qu'ils vont être obligés de souffrir les conséquences, les réactions de leurs actions. Le dévot est désolé de ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut s'intéresser à la conscience de Krishna et accepter de changer sa vie pour la conscience, pour pratiquer justement la conscience de Krishna, alors le dévot est très heureux pour cette personne-là. Et il demande pas mieux que d'aider une telle personne à être consciente de Krishna et poursuivre sa pratique de la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. On va s'en aller au module après. Module 7. Okay. Virginie, veux-tu lire, s'il vous plaît?
La maîtrise des pulsions sexuelles. De même, les pulsions sexuelles sont maîtrisables à condition de ne pas faire un usage inutile des organes génitaux. Ces derniers devraient servir à engendrer des enfants conscients de Krishna et à nul autre usage. Le mouvement pour la conscience de Krishna ne favorise pas le mariage en vue de satisfaire les organes génitaux, mais bien pour que viennent au monde des enfants conscients de Krishna. Dès qu'ils ont un peu grandi, on les envoie à nos écoles védiques, Gurukula, où ils reçoivent l'éducation nécessaire pour devenir des dévots parfaitement conscients de Krishna. La société requiert un grand nombre d'hommes formés de cette manière. Ainsi, celui qui est en mesure d'engendrer une descendance de Bhakta pourra-t-il avantageusement user de ses organes de reproduction? 7.1. De même, les pulsions sexuelles sont maîtrisables à condition de ne pas faire un usage inutile des organes génitaux. S'amorce maintenant un sujet des plus pertinents, celui des pulsions sexuelles, lesquelles sont tenues d'être maîtrisables, telles que l'affirme ici Srila Prabhupada. À quelles conditions? Réponse sans détour, pourvu qu'on n'y réponde pas sans jugement. On pourrait fermer le dossier tout de suite en ce qui concerne cette dite recommandation, tout à fait consciente de Krishna, et donc à suivre pour tout défaut. Cependant, la dite recommandation se situe à l'antipode des recommandations entendues ou sous-entendues des concepts de sexologie moderne. La sexologie est dite une science en soi pour tous ceux qui en font une profession et qui ont beaucoup de monde à soigner ou guider dans le domaine. Mais Srila Prabhupada coupe tout court à tout cela. Les pulsions sexuelles sont maîtrisables à condition de ne pas faire un usage inutile des organes génitaux. C'est très simple. Et après cette instruction, il suffit de savoir l'usage utile au lieu d'inutile des organes génitaux. C'est pourquoi des explications supplémentaires sont nécessaires. Ce genre de sujet est toujours captivant pour toute âme conditionnée que nous sommes. Étant donné que c'est depuis le temps des temps immémoriaux normal pour chacun d'entre nous de ne concevoir le seul plaisir sexuel comme l'apothéose par excellence au sein de l'existence matérielle. Mais c'est le genre de soi-disant plaisir que lorsque tu n'en as pas, tu en veux, et lorsque tu en as, à volonté, tu t'exposes à des problèmes. Où est donc le réel plaisir? Néanmoins, il s'agit toujours d'un sujet captivant pour les âmes conditionnées. La question se pose donc, est-il si captivant que cela pour un dévot? Srila Prabhupada a dit que c'est dans la mesure où l'on se détache du plaisir sexuel que l'on peut juger de notre progrès spirituel. Assez clair, merci.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires là-dessus?
Non, c'est clair. Hein.
Ouais, c'est bien clair.
C'est bien clair et c'est aussi c'est à cause de tout ça qu'il y a tous ces avortements aussi, quoi. Donc c'est
Ouais, ça c'est un bon point, ça.
et
Alors,
ça ne cesse de d'avancer vers des crimes de plus en plus où les enfants, parce que c'est des enfants, même s'ils sont pas encore sortis du ventre de leur mère, sont arrachés de plus en plus vieux, quoi.
ouais, effectivement.
Ah non, c'est une abomination, ça aussi. On parlait des abattoirs tout à l'heure, mais ça, c'est une autre abomination.
Exactement, tu as tout à fait raison là-dessus. Alors, ouais. Alors, pour le dévot de Krishna, quelle est la ligne en ce qui concerne l'usage des organes génitaux? Quelle est la ligne de base ou l'instruction sur laquelle qu'il doit se remémorer continuellement, si jamais il se demande, ben, sur quoi c'est basé? Quelle est la ligne? Un verset. Oui.
Je sais pas si c'est ça la bonne ligne, là, mais c'est de produire des enfants sur la conscience de Krishna, l'utiliser pour une cause qui en vaut la peine, pas juste pour user pour rien.
Oui. Alors, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, si je ne m'abuse, c'est dans le chapitre 7. 7. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est au chapitre 7, verset 11. Alors, Krishna dit, je suis la force du fort, exempte de passion et de désir. Je suis, ô Seigneur des Bharata, Arjuna, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Teneur apportée de Srila Prabhupada, c'est pas long, là. La force du fort doit servir à protéger les faibles et non à agresser autrui par intérêt personnel. Quant à la vie sexuelle, conformément aux principes religieux, dharma, elle ne doit avoir d'autre objet que la procréation d'enfants dont les parents devront assurer le développement de la conscience spirituelle, la conscience de Krishna. Alors, ça, c'est le verset de base dans la Bhagavad Gita. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a un autre verset très important qui fait partie des enseignements du Seigneur Rishabhadev, dans lequel le verset dit, personne ne devrait être un demi-dieu, un gourou, un maître spirituel, ou un enseignant, ou un parent, s'il ne peut délivrer ses dépendants de la naissance et la mort répétées. Alors, c'est beau faire des enfants, là, mais il y a une responsabilité de la part des parents. Et comme on vient de le lire dans la Bhagavad Gita 7, 11, tenant à porter, c'est le Prabhupada dit que les parents ont la responsabilité de les éduquer dans la vie spirituelle pour qu'ils aient une conscience spirituelle. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi il faut, je pose la question comme ça, là. Pourquoi est-ce que c'est la responsabilité des parents? Quelle est la raison? Quel est le but?
Mais qui peuvent se sauver de cette emprise matérielle. Et les seuls, c'est les parents qui peuvent te donner autant d'amour pour te diriger vraiment sur quelque chose qui est le best pour toi, le meilleur pour toi.
Exactement. Alors, parce que les parents ont la responsabilité de donner une éducation à leurs enfants, justement, par laquelle ces enfants-là pourront comprendre c'est quoi le but de la vie humaine. C'est l'occasion en or de se libérer de la naissance et la mort. Et comment faire ça? Ben, faut cultiver la conscience de Krishna, connaître sa relation avec Dieu, la vérité absolue, et développer son amour pour lui. Et au moment de quitter le corps, ben, ce sera dans la conscience de Krishna, par amour pour Krishna. Et Krishna devient très cher aux dévots ou dévotes qui est vraiment conscient de Krishna. Et ça, le but de la vie humaine, développer sa relation avec Krishna et puis retourner auprès de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. 7.2. Ananda, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. 7.2. Ces derniers devraient servir à engendrer des enfants conscients de Krishna et à nul autre usage. 3 coups de poing ici. 1. Les organes génitaux doivent servir à engendrer des enfants. 2. Qu'on élèvera dans la conscience de Krishna. 3. Et à nul autre usage. Faut-il un dessein de plus? On ne peut assumer une mentalité perverse de la sexualité et être en bon terme avec la philosophie de la conscience de Krishna quant au sujet. C'est contrariant pour le mental inassouvi à ce chapitre-là, mais c'est comme ça. Encore une fois, le programme de disciples a assumé. Tout est dit dans le point 1, 2 et 3. La frontière est tracée par Srila Prabhupada, Dieu merci. La frontière, faut-il le redire, pas de sexe illicite. Srila Prabhupada a déjà expliqué. Nous ne disons pas de sexe, nous disons pas de sexe illicite. La sexualité a sa raison d'être, mais il faut savoir en faire usage à une seule fin, et pas autrement. La restriction va de pair avec la paix d'esprit.
Qu'il y a des questions, des commentaires? Je pense que c'est assez clair. OK. Oui. Questions, commentaires?
Non, je disais juste oui, c'est quand même clair.
OK, allons-y.
7.3. Le mouvement pour la conscience de Krishna ne favorise pas le mariage en vue de satisfaire les organes génitaux, mais bien pour que viennent au monde des enfants conscients de Krishna. Le sexe fait partie de la vie, mais il peut et doit être perçu à sa juste valeur. Encore une fois, 3 points ici. Pas de mariage en vue de satisfaire les organes génitaux, mais bien pour que viennent au monde des enfants conscient de Krishna. La conscience de Krishna est destinée aux êtres humains. Tout le monde est d'accord, en principe. Mais le mental impur est bâtard. Il ne veut pas accepter la discipline applicable aux pulsions génitales. Cette indiscipline vaut à l'homme d'être engagé au rang des animaux, où leur seule préoccupation ne dépasse guère manger, dormir, s'accoupler et se défendre. Il faut être un homme averti plutôt qu'un animal dans un corps d'humain pour accepter de suivre les 3 points si haut mentionnés. Pour y voir clair, une conversation de Srila Prabhupada avec des disciples en Allemagne le 20 juin 1974 qui parle de la vie sexuelle.
Jai. Bon. On va garder ça pour la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Moi, je dis que même certaines espèces animales sont plus disciplinées que la majorité des humains qui font n'importe quoi avec le sexe, en fait. Parce qu'il y a des espèces animales qui sont fidèles toute leur existence.
Ouais, c'est un bon point, ça.
Ouais, et ça, des fois, je fais des parallèles là-dessus en me disant, mais même les animaux, ils ont plus de discipline que la masse des humains, en fait. Pour certaines espèces animales. Parce que pareil, ils fonctionnent par période d'accouplement, mais après ça, ils sont pas à s'accoupler matin, midi et soir, 365 jours de l'année, quoi. Pour certaines espèces, hein, je dis bien.
Ouais, et c'est ça, certaines espèces. Et comme,
Les éléphants, des espèces animales d'un certain niveau.
Ouais. Et il y a d'autres espèces, c'est le contraire, c'est que
Ouais.
c'est à gogo,
Les
dans le
bonobos,
sens
les singes.
que c'est. Moi, j'écoutais une classe d'un dévot une fois qui disait, attends une minute, c'est des pigeons. C'est 60 fois par jour.
Wow.
Et Prabhupada, dans la Bhagavad Gita, il parle des moineaux. Eux autres aussi sont très enclins. C'est plusieurs fois. C'est plus que les êtres humains. Et que faut-il dire non plus? Prabhupada donne exemple aussi des porcs. Et eux autres, c'est sans aucune discrimination. Frères, sœurs, mères. Il n'y a pas de discrimination. Allons-y gaiement. Alors, l'être humain n'est pas fait pour ce genre de vie-là. Et encore une fois, une question de faire preuve de discipline. Et si la pilule est difficile à avaler, ben, faut l'avaler pareil. Parce qu'à un moment donné, tout va rentrer dans l'ordre. Et quelqu'un va apprécier justement une vie disciplinée que plutôt une vie qu'on peut dire en langage soit vulgaire ou populaire, whatever it is, qu'une vie dévergondée. Une vie disciplinée, c'est beaucoup mieux que ça. Et ça, c'est digne. C'est comme ça que devrait être la vie humaine. Pas une vie dégradée, justement. Avoir le champ libre, faire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a mieux que ça dans la vie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, c'est juste pour dire en ce moment, sur le point sexuel, c'est comme pas imaginable comment c'est rendu. Les plusieurs styles de sexe, il y a des jeux puis des tubes, je sais pas quoi, là. Ça se change de sexualité, des trans, puis tout ça. C'est à la décadence que j'ai jamais vue de ma vie, moi. C'est comme c'est rendu fou.
Oui, c'est ça. C'est les, comment on peut dire, les demandes des sens. Les gens contrôlent pas leurs sens, alors ils sont piégés. Et le mental et les sens, tout ça, ça fait, c'est mélangé ensemble. Et puis, les gens sont impurs. Alors, et la conscience de Krishna, Prabhupada explique que c'est une vie qui doit être pur à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, à l'intérieur, ça concerne les pensées qu'une personne peut avoir. Et si on veut avoir la pureté pour les pensées, Prabhupada explique comment faire ça aussi. C'est en s'absorbant dans les gloires du Seigneur. Alors, c'est pourquoi il y a des écritures. Pas juste la conscience de Krishna, il y a d'autres écritures, la Bible, la Torah, Coran, pour donner matière à réfléchir ou à méditer dessus pour le mental qui autrement va méditer sur toutes sortes de niaiseries, toutes sortes de cochonneries. Et puis, c'est pas digne de la vie humaine, ça. La vie humaine est faite pour avoir de la discipline, mais puis essayer de converger son mental sur la personne suprême, sur Dieu, la personne suprême. Et le plus on connaît Dieu comme une personne, le plus on a de chances que ce soit plus facile, justement, de faire preuve de maîtrise des sens, puis d'être conscient de Dieu, conscient de Krishna. Et comme Prabhupada, j'ai écouté dans une classe aussi, ah, s'il n'y a pas la conscience de Krishna, même pour les yogis, le plaisir, ça va être la même chose que pour n'importe qui d'autre. Ultimement, ça tombe avec la vie sexuelle. Alors, la vie sexuelle, c'est, disons, le chaînon qui retient l'âme conditionnée à l'existence matérielle. Et puis, si on pratique la conscience de Krishna, ben on a une chance disons, de se libérer de cette emprise. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera pour la classe de Prabhupada la prochaine fois.
D'accord.
Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'être venu
merci
au
beaucoup.
Cours.
Merci.
Et puis, on se reprend pour une autre classe.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est ça. Merci Haribol. Beaucoup.
Bonne continuation à tous.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Bol. Hare Krishna.
Hare Bol. Hare Krishna. Jai.
Voilà. C'est un bon tour.